Il y a un endroit entre la Grèce continentale et l'île de l'Eubée, où l'île et la terre sont si proches que pour traverser la mer, il n'existe aujourd'hui qu'un pont qu'on aurait pu trouver ailleurs sur un fleuve. L'île de l'Eubée s'étire sur toute une longueur de la Grèce continentale et forme comme un énorme golfe, avec, quasiment partagé de manière égale, un golfe au nord, un golfe au sud, et au plein milieu, ce point où l'île et la terre se touchent presque. C'était à ce point que se trouvait autrefois la ville d'Aulis. Ce n'était pas une grande ville, c'était un petit port de pêche. Un petit port de pêche rattaché à la grande cité de Thèbes. Et c'est pourtant ce petit port de pêche qui a été le lieu de rassemblement de tous les Grecs avant de partir pour Troie. Tous les bateaux s'étaient rassemblés dans ce golfe nord, dans ce golfe sud de l'Eubée. On dit qu'il y avait là plus de 1000 bateaux rassemblés. On dit que dans la plaine campaient plus de 100 000 hommes. On dit qu'enfin ils étaient tous là, prêts à partir, prêts à aller combattre de l'autre côté de la mer, prêts à vaincre Troie. On dit qu'ils s'étaient rassemblés là car c'était assez central par rapport à ceux qui venaient du nord, ceux qui venaient du sud, ceux qui venaient de l'est, ceux qui venaient de l'ouest. On dit qu'ils s'étaient rassemblés là car c'était paisible pour entreposer tous les navires. On dit qu'ils s'étaient rassemblés là et qu'enfin ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire tous ensemble. Ils se sont demandé qui allait tous les commander. Et il y a eu un temps où les différents chefs se sont regardés. Il y a eu un temps où la pression a commencé à monter. Il y a eu un temps où on a pu croire que tous allaient s'affronter. Mais c'est Agamemnon qui a pris la parole. Et il a bien parlé. Il a rappelé à tous pourquoi ils étaient là. Il a rappelé à tous que c'était lui avec son frère qui était venu les chercher. Il a rappelé aussi que c'était lui qui apportait le plus grand contingent et de bateaux et d'hommes. Il les a tous regardés et il a ajouté « Voilà pourquoi je me propose d'être votre chef. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis plus fort, mais parce qu'il faut qu'il y ait un chef de notre camp si nous voulons y arriver. » Il y a eu un silence. Puis c'est le vieux Nestor qui a pris la parole. Et le vieux Nestor a accordé son soutien à Agamemnon. Ménélas, le mari trompé, a accordé son soutien à Agamemnon. Palamède a accordé son soutien à Agamemnon. Et un à un, tous les chefs ont apporté leur soutien à Agamemnon. Y compris Ulysse, celui qui ne faisait jamais rien comme les autres, y compris Achille, celui qui de tous était sans doute le plus jeune, mais qui de tous était certainement le plus prestigieux, le plus glorieux, le plus craint et le plus adulé. Maintenant que le chef était désigné, tous pouvaient partir. Ils sont tous remontés dans leurs bateaux en attendant le coup de vent qui gonflerait leurs voiles et qui les ferait partir vers les rivages de Troie. Mais le coup de vent n'est pas venu. La mer était lisse, le ciel dégagé, le vent ne venait pas. Ni ce jour-là, ni le suivant, ni ceux d'après, ni dans le golfe nord, ni dans le golfe sud, ni même de l'autre côté de l'Eubée, face au large. Nulle part il n'y avait de vent. on a commencé à murmurer. Et puis, on a interrogé les devins. Dans la troupe, il y avait le devin Calchas, le plus célèbre, le plus réputé et le plus respecté des devins qui les accompagnaient. Et Calchas, assisté d'autres devins, a interrogé les oracles. Il a interrogé les entrailles d'un animal. Il a interrogé le vol des oiseaux. Et il a entendu la réponse des dieux. Le vent ne soufflait pas, car Artémis était en colère. Artémis était fâché d'un sacrifice qui ne lui avait pas été fait. Et le responsable, c'était le père d'Agamemnon, Atrée. Il avait autrefois juré de sacrifier la plus belle de ses bêtes, mais parmi ses bêtes, il avait trouvé un bélier à toison d'or. Il l'avait offert à sa femme pour ne pas avoir à l'offrir à Artémis. Et maintenant, la déesse se vengeait sur son fils. La déesse exigeait, en échange, un sacrifice. La déesse exigeait qu'en échange, Agamemnon lui amène sa fille aînée, Iphigénie, et la sacrifie là, à Aulis, devant tous les Grecs assemblés. Agamemnon a écouté, et il a juste dit « Non, je n'irai pas chercher ma fille, je ne la sacrifierai pas. Nous attendrons que le vent revienne, que la déesse calme son courroux. Le vent reviendra, la déesse se calmera et ma fille sera épargnée. » Mais dans les jours qui ont suivi, le courroux de la déesse ne s'est pas levé. Et les murmures dans le camp des Grecs se sont faits de plus en plus nombreux. Une délégation est venue trouver Agamemnon. Nestor et Ulysse en étaient les principaux instigateurs. Agamemnon, tu as voulu être le chef de tous les Grecs, maintenant il faut que tu assumes. C'est à cause de toi que l'on ne peut pas partir, à cause de ta famille. Il faut que tu fasses ce que la déesse exige de toi, sinon une rébellion va éclater. Sinon, chacun va repartir d'où il est venu. » Et Agamemnon a bien vu qu'ils avaient raison. Parmi la délégation, il y avait aussi Pénéléos, le roi de Thèbes, sur le pays de qui campaient ses plus de 100 000 hommes. Et plus le temps passait, plus les hommes avaient besoin de ravitaillement. Et il avait peur pour son peuple, il avait peur du pillage. Et Agamemnon a vu qu'il avait lui aussi raison. Ulysse a ajouté, « Si tu veux, je peux aller chercher ta fille. Nous ne lui dirons pas qu'elle va être sacrifiée. Elle pourrait ne pas vouloir venir. Nous ne le dirons pas non plus à sa mère. Elle pourrait vouloir la retenir. Nous allons la faire venir pour une grande cause. Nous allons lui dire qu'elle va se marier avec le plus grand d'entre nous, qu'elle va se marier avec Achille. » Et Agamemnon a vu que c'était la seule solution. Alors Ulysse est parti en délégation à Mycène. Il a trouvé Clytemnestre, il a trouvé Iphigénie. Il leur a tout raconté. Et Iphigénie est repartie avec lui. Et quand ils sont arrivés ensemble à Aulis, on avait préparé un hôtel macabre. Et Iphigénie n'a pas compris ce qu'on voulait d'elle. Quand on l'a fait allonger sur cet autel, elle a d'abord hésité. Puis elle a vu son père qui était là, elle a été rassurée. Elle s'est allongée. Enfin, elle a vu le devin s'avancer avec un couteau. Elle a regardé son père. Et cette fois, c'est de le voir ne pas bouger qui l'a fait trembler. Elle aurait presque eu envie de crier si les mots n'étaient pas restés coincés dans sa gorge. Et le devin a levé son couteau, et le devin à frapper avec le couteau. Mais le couteau ne s'est pas planté dans le cœur d'Iphigénie. Le couteau s'est planté dans le cœur d'une biche qui a pris la place d'Iphigénie à l'instant où le couteau s'est abattu. C'était la déesse qui, au dernier moment, avait eu pitié de la jeune fille, qui l'a remplacée par une biche et qui a emmené la jeune fille presque au bout du monde, en Tauride, dans l'actuelle Crimée, où Iphigénie est devenue une prêtresse. Quant aux Grecs, le sacrifice avait été accompli, le vent s'est aussitôt mis à souffler, tous sont montés dans leurs bateaux et sont partis à l'attaque de la ville de Troie.